Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il contait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut.
Paix et tout bien. Pax et bonum, amis auditeurs, nous nous retrouvons pour notre petit quart d'heure franciscain à la découverte de ce frère universel François d'Assise qui marqua non seulement son époque, mais également tous les temps, hein, qui est un véritable témoin pour notre Église, une inspiration, on le voit même pour notre Saint-Père le Pape François. Alors, nous continuons nos épisodes grâce aux éditions Saint-Léger à travers ce livre audio de Julien Green intitulé « Frère François ». Et nous en arrivons maintenant vraiment au suc, c'est-à-dire à la vie des frères de la première communauté, à cette fraternité. Et nous allons aujourd'hui écouter un sermon, le sermon dans la cathédrale, vous verrez, avec un épisode avec frère Ruffin. Un épisode qui montre toute la radicalité, mais en même temps la tendresse de François pour ses frères. Je n'en dis pas plus, écoutons.
Sermon dans la cathédrale. Si grande qu'elle fût déjà, la popularité de François s'accrut d'un coup d'une façon prodigieuse lorsqu'on apprit que le pape avait approuvé sa règle. François n'eut pas besoin d'en informer lui-même les populations. Les frères se chargeaient de ce soin. Qu'elle ne fût que verbale, n'infirmait en rien la permission de prêcher accordée par Innocent III. Qui se fût avisé de la contester? La seule présence de François ranimait les aspirations religieuses dans toutes les classes de la société. Mais la soif de l'Évangile agissait autant que la curiosité. Assise voulait entendre celui qui autrefois l'avait scandalisé prêcher le Christ, et le prêcher dans une église où elle put voir de tous ses yeux le fils qu'elle tenait déjà pour un saint. L'église Saint-Georges fut jugée trop petite pour contenir la foule. Pourquoi ne parle-t-on jamais de ce passionnant face à face dans la cathédrale? De l'église San Rufino, seule la façade reste à peu près telle que François la vit. Elle garde cette majesté un peu massive du style roman, simple dans son ensemble, mais d'une singulière richesse dans le détail. Une galerie de colonnettes la barre de droite à gauche sous les trois rosaces, pareille à des roues qui tourneraient immobiles au-dessus des portails. Beaucoup d'énigmes se lisent sur cette haute page de pierre grise. Dans le tympan du grand portail central, le Christ, en roi barbu et couronné, trône entre la lune et le soleil. D'un côté, sa mère assise allaite son enfant. De l'autre, Ruffin, l'évêque martyr. Voilà pour le ciel. Mais d'étranges choses se passent dans l'encadrement arrondi de la porte que gardent deux lions féroces, très occupés à dévorer celui-ci un mort, celui-là le bélier juif. Le plus curieux est dans une sarabande de bêtes fort suspectes qui se pourchassent en se mordant tout autour de l'entrée, l'encerclant d'une guirlande maléfique qui semble frétiller tant l'artiste a su les rendre vivantes. Lâchée là par le diable, elles jettent la note infernale si fréquente dans l'art du Moyen-Âge. Elles animent la pierre avec une vivacité hallucinante et créent un indéfinissable malaise. Ce n'est pas tout. Autour de la rosace centrale que protège le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme, symbole des évangélistes, rôdent les ombres de certains animaux mutilés par le temps et presque disparus, au point de ne laisser que la trace de leurs pattes. Assise était à une demi-heure de marche de Rivotorto. On dut aider François, affaibli par le jeûne. Sans doute le mena-t-on à dos d'âne jusqu'à la cathédrale. Et comme c'est encore l'usage dans certaines églises d'Italie, on le fit monter sur une tribune au lieu de l'emprisonner dans une chaire. Cela lui donnait la liberté de mouvement dont il avait besoin, car il lui fallait aller et venir en parlant, avec la gesticulation qui lui était habituelle. Lorsqu'il considéra sa ville natale presque tout entière autour de lui, devant ses milliers de visages tournés vers le sien, sa faiblesse physique disparut, cédant la place au feu d'une énergie soudaine qui lui rendit sa jeunesse. Ce qu'il dit, nous ne pouvons que le deviner. Mais il n'avait que le Christ de l'Évangile dans le cœur, et ce n'était qu'un cri d'amour qui s'échappait de ce cœur ardent comme celui d'un prophète. Ces paroles, d'une simplicité bouleversante, allaient droit à la conscience de chacun. La tendresse de Dieu passait dans cette voix qui émouvait avec la séduction mystérieuse d'un chant. Mais il ne s'agissait pas seulement de rendre la joie aux âmes inquiètes s'interrogeant sur leur salut. Toute la ville était coupable. L'avarice resserrait les cœurs comme les cordons d'une bourse. La luxure tuait l'amour. Les haines politiques chassaient l'évangile mieux que les coups d'épée. Il savait tout cela parce qu'il connaissait tous les habitants de sa ville et qu'il avait vécu comme eux parmi eux. Ne le connaissaient-ils pas, eux aussi ? La confrontation dut être saisissante. Ce religieux, grossièrement vêtu et la corde aux reins qui arrachait larmes et soupirs en parlant de Dieu, il l'avait vu 4 ans plus tôt, roi de la jeunesse, dissipé en seigneur et dans le désordre des sens les écus de son père, le drapier. Tous s'en souvenaient parfaitement, et lui ne l'avait certes pas oublié, mais il y avait ceci qui faisait passer un frisson. Le Seigneur s'était emparé de l'homme de plaisir et avait pris sa place pour parler à chacun des habitants d'Assise. Dieu s'était déguisé en pauvre et clamait son évangile comme jadis en Terre Sainte. On eût cru que François disparaissait derrière la personne dont il parlait le langage. À l'appel de la pénitence, des gémissements s'élevaient de la foule au bord de cette frénésie religieuse si fréquente au Moyen-Âge. Pendant ces quelques heures au moins, dûment fustigée, Assise voulut se convertir. Elle avait son prophète, elle tenait son saint. Elle ne le lâcha plus. On peut espérer que la bonne Pica était encore en vie et put entendre son fils dont elle avait prédit la gloire spirituelle. Et Bernardone ? On ne sait rien. Peut-être derrière un pilier se posait-il des questions. Les frères n'assistèrent pas à ce triomphe. Restés à Rivotorto, ils eurent cependant une consolation de choix sous la forme d'une vision étonnante. François n'était pas encore de retour qu'ils virent entrer par la porte un char de feu, lequel traversa la cabane, sortit, revint, sortit encore, revint une dernière fois, puis disparut, laissant les frères terrifiés et ravis. Car dans cette lumière surnaturelle, ils avaient reçu la grâce de voir clairement dans la conscience les uns des autres, et nul doute n'y virent que du bien. C'était l'âme de leur frère François qui les dédommageait ainsi de son absence en leur portant ce témoignage de son amour. Paix, Assise. Les gémissements d'Assise repentante dans la cathédrale de San Rufino se justifiaient largement. Elle avait grand besoin de se convertir, non seulement à cause des turpitudes habituelles, là sa voisine exécrée Pérouse lui rendait des points, mais parce que les hostilités entre bourgeois, bas-peuple et patriciens répandaient chaque jour le sang dans les rues. Situation inextricable. Pérouse était la vassale du pape. Assise se trouvait toujours sous la protection théorique de l'empereur, comme les communes lombardes. Les Assisiates ne pardonnaient pas aux seigneurs revenus chez eux après la guerre avec Pérouse. C'étaient des traîtres. Ceux-ci pratiquaient une revendication permanente des biens dont ils avaient été lésés pendant leur absence, malgré l'accord qu'ils avaient signé. Les heurts étaient d'une férocité atroce. Cela durait depuis 10 ans. À Pérouse, en mars, avec l'assentiment un peu forcé du pape, Othon avait reconduit les anciens commandants de l'empereur dans leurs fonctions et leurs droits, notamment le duc de Spolète, ce qui forçait les Assisiates à s'unir. On abolit le servage, mais d'autre part on rendit aux nobles certains de leurs biens. Quel rôle joua François dans la pacification de sa ville ? Frappé d'interdit par Innocent III et son podestat excommunié, Assise finit par chercher un accord entre les parties. Il le fallait bien. La misère s'installait dans la cité jadis prospère. De toute son éloquence, François appelait la paix. Elle ne vint pas, mais fut remplacée par sa parente pauvre, la trêve, une de plus, le 9 novembre 1210. il y eut des concessions de part et d'autre. Peut-être la voix passionnée du saint avait-elle eu des échos. On ne saurait rien affirmer de plus. Cette année-là entra dans la fraternité le fils d'une des plus nobles familles d'Assise, les Offreduccio. Y avait-il chez François une tendance à la taquinerie? Taquinerie, si l'on peut dire, d'un ordre supérieur, inconsciente peut-être? On peut se le demander en lisant l'histoire de l'épreuve que Ruffin dut subir par une sorte de caprice spirituel. Ruffin était petit et délicat, cousin de Claire, le détail à sa valeur. Très peu doué pour la prédication et pour aggraver son cas légèrement bègue, François eut un jour l'idée très particulière de lui demander l'impossible. « Va prêcher à San Rufino. » Consterné, Ruffin prie humblement d'être dispensé d'un devoir qu'il est sûr de ne pouvoir accomplir. Ce n'est pas un refus d'obéissance, mais il plaît à François d'y voir un manque d'empressement à obéir. Et il ordonne à Ruffin d'aller prêcher à la cathédrale à demi-nu, vêtu seulement de ses braies. Cette fois, Ruffin s'incline et part pour l'église de San Rufino, martyr. Y arrive, monte à la tribune et commence un sermon sur la pénitence. Un concert d'éclats de rire salue cette étrange apparition. S'agit-il d'une plaisanterie? Pas du tout. Le malheureux, de sa langue indocile, essaie de parler de Dieu, mais l'hilarité générale empêche qu'on ne l'entende. Cependant, à la portioncule, François se ressaisit tout à coup. Pourquoi cet ordre absurde qui fait inutilement souffrir un frère modèle? Aucune hésitation ne lui semble permise. Il ira sans tarder réparer son manque d'humanité. Accompagné de frère Léon qui porte sur le bras un habit, il se rend à la cathédrale, ôte sa tunique, reste à demi-nu et prend la place de Ruffin. Nouvelle explosion de rire. Les frères ont-ils perdu la tête? Mais François se met à parler de la nudité du Christ dans sa passion, et soudain le silence se fait. L'émotion s'empara des fidèles en entendant des paroles qui leur serraient le cœur, et les larmes coulèrent sur ses visages un instant plus tôt déformés par une gaieté vulgaire. Ruffin devait devenir un des trois frères qui accompagnèrent François et prirent soin de lui jusqu'à sa mort.
Et voilà, c'est beau, n'est-ce pas? Amis auditeurs, nous retrouverons François d'Assise, le frère François par Julien Green, aux éditions Saint-Léger dans cette publication audio. Nous retrouverons d'autres étapes de la vie de la communauté, et notamment nous reviendrons sur la portioncule et bien évidemment les premiers temps de la fraternité. Comment de quelques frères sont-ils devenus des milliers? Bonne et continuation avec nous sur les ondes de votre radio. Puis je vous rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver donc ces émissions en podcast sur notre antenne.
Il louait le soleil.